Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30, à moins d'un mois des élections européennes. Le RN continue sa course en tête dans les sondages. Le parti de Marine Le Pen obtiendrait 32% des voix, soit quasiment le double de la liste Renaissance qui plafonne à 16,5% dans notre dernière enquête ELAB. Je vous le rappelle, le scrutin du 9 juin paraît donc quasiment plié. Mais pour Marine Le Pen, même si Jordan Bardella incarne ce succès attendu, pas question de laisser sa place en 2027. C'est bien un ticket qu'elle promet aux Français. Elle était ce matin invitée d'Apolline de Malherbe sur RMC et BFM TV.
Nous avons longuement discuté avec Jordan Bardella et nous pensons que le duo que nous formons et que nous présentons aux Français, qui potentiellement, c'est dans 3 ans, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais potentiellement me verrait candidate à la présidentielle et lui, Premier ministre, si je suis élu, est un duo performant. C'est celui-là qu'il faut. C'est ce couple exécutif que nous proposons aux Français, avec les qualités qui sont les miennes, les qualités qui sont les siennes. Et c'est vrai qu'il est en train de se passer quelque chose, on le voit aux européennes, autour de notre mouvement, autour de nos thèmes, autour de notre candidat Jordan Bardella, qui est un véritable enthousiasme. Et je me réjouis évidemment de cela. Je n'ai jamais cru au plafond de verre, jamais.
Duo performant, nous dit Marine Le Pen. Alors, pour commenter cette actualité politique, j'accueille Virginie Martin, qui est politologue, professeur à la Kedge Business School, Tugdual Denis, directeur de la rédaction du magazine Valeurs Actuelles, Guillaume Tabar, éditorialiste politique au Figaro, et Anna Cabana, éditorialiste de BFM TV. Anna, ce ticket, Le Pen présidente, Bardella Premier ministre, c'est devenu une évidence ?
Alors, ce ticket, elle l'a officialisé, souvenez-vous, quelques jours seulement après la nomination par Emmanuel Macron de Gabriel Attal à Matignon. Oui. C'était donc à la mi-janvier, c'était dans le journal du dimanche, et c'est là qu'elle a parlé de ticket, mais c'était au fond, c'était la réponse
politique. C'est
la réponse politique à la nomination et stratégique d'Attal. À la nomination d'Attal. C'est-à-dire que c'était la façon de dire, eh bien voilà, moi, Marine Le Pen, j'y réponds, puisque la nomination d'Attal, c'était clairement conçu comme une arme anti-Bardella. Eh bien, dans la perspective des élections européennes, c'était une des ambitions de la Macronie avec cette nomination de Gabriel Attal. Eh bien là, à ce moment-là, Marine Le Pen dit... Moi, je donne dès à présent le ticket, ce qui est totalement inédit. On sait très bien, la présidentielle à la française, c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme et d'un peuple. Donc là, elle américanise, au fond, la posture même. Et elle le fait en disant, et d'ailleurs, elle le dit dans cette interview, moi, ça m'avait marqué, elle dit, les macronistes, en nommant Gabriel Attal à Matignon, viennent de tuer le seul argument qu'ils avaient contre Jordan Bardella, puisqu'ils avaient commencé à développer l'idée que c'était trop jeune pour Matignon.
Moi, ce que j'ai entendu, ça va un peu plus loin, c'est j'annonce une sorte de ticket à l'américaine, très bien, mais surtout je rappelle que c'est moi qui candidate à la présidence et le petit, enfin ou le grand comme vous voulez, il reste Premier ministre si tout va bien. Ah bah est-ce que je me trompe ?
C'est aussi une façon de désarmer tous ceux qui disent, à commencer par ses opposants, évidemment qu'il a poussé plus vite que prévu, que finalement c'est lui qui prend la lumière, que c'est lui le meilleur des deux et qu'il serait un meilleur candidat qu'elle. Là en effet, c'est une façon de le ramener à lui. Oui. Et de dire nous. Elle ne dit pas je. Hein. Vous noterez que ce qui est intéressant chez Apolline ce matin, elle dit nous. Là aussi, c'est une posture très peu présidentielle.
Elle a appris le nous.
Elle ne parle pas, elle ne dit pas moi, Marine Le Pen, j'ai choisi de faire alliance avec Jordan Bardella. Non. Elle dit nous avons discuté longuement, Jordan Bardella et moi. Elle se met presque à son niveau. Elle invoque des complémentarités entre elle et lui, lui et elle. Ce qui, là encore, ne s'inscrit pas dans la tradition présidentielle française où vous avez le candidat du haut de sa superbe qui consent à discuter avec d'autres.
Alors qu'elle ne cesse de nous ramener régulièrement à la constitution mise en place par le général de Gaulle. Enfin bon, Virginie Martin, voter pour un duo à une présidentielle plutôt qu'un candidat seul, est-ce que ça a déjà existé, on va dire, dans l'histoire politique française, en tout cas sous la Ve République ?
Non, pas vraiment.
Enfin, chercher cet après-midi, c'est pas évident.
Ici ou là, on pouvait parfois, ici ou là, prévoir des premiers ministres putatifs.
C'est pas la même chose.
Ça, c'est vrai. C'est pas la même chose. Là, c'est vraiment, comme vous le disiez, hein, c'est vraiment made in the USA, vraiment. C'est une américanisation, effectivement, de ce ticket. Elle dit même couple exécutif. Alors après, est-ce qu'elle a tort ?
Ça peut marcher. Ouais, voilà.
Alors voilà. Est-ce qu'elle a tort ?
Je crois pas, moi, mais...
D'abord, ce duo exécutif existe, de fait. Hein, on a toujours parlé d'un exécutif bicéphale. On le sait très bien. Par ailleurs, lui est aussi très légitimiste à l'égard de Marine Le Pen, puisque quelque part, il lui doit à peu près tout. Donc pour l'instant, il reste vraiment aussi très correct par rapport à elle et il lui laisse le leadership, ça c'est certain. Et puis après, il y a aussi effectivement une forme quand même de complémentarité, d'abord générationnelle. Il y a un effet Bardella chez les jeunes, c'est absolument inéluctable.
Oui, je vais y revenir.
Absolument. Il y a aussi une complémentarité en termes aussi programmatiques. Elle est un peu plus sociale, il est un peu plus identitaire, donc c'est intéressant aussi de ce point de vue-là. Donc il y a toutes ces choses-là. Et puis, ouais. Quelque part, je pense quand même que la présence de Bardella, qui était déjà là en 2019, mais il n'y avait pas cet effet Bardella. Il y était justement. Parce qu'il était... Je trouve qu'il enlève quelque peu l'usure de Marine Le Pen. Il aurait pu la vieillir et la ringardiser. Et en fait, non, je trouve que comme elle se met dans sa roue et il se met dans la sienne, ça marche plutôt bien.
Bon, c'est un atout pour Marine Le Pen ou ça peut être à un moment un concurrent? Est-ce que c'est quand même pas un peu risqué politiquement? On a vu que lui depuis un an, là.
Elle dit dans cette interview ce matin face à Pauline de Malherbe qu'elle ne croit pas au plafond de verre. Or, c'est évidemment le talon d'Achille de Marine Le Pen. C'est est-ce qu'un jour, il y aurait 50% des Français plus une voix voilà. qui pourrait l'emmener à l'Élysée.
Vous résumez parfaitement.
Le problème de Marine Le Pen, c'est pas le premier tour de la présidentielle. Elle sait qu'elle peut faire des gros scores au premier tour, mais c'est de convaincre au moment du deuxième tour de l'emporter. De ce point de vue-là, Bardella est quand même un atout assez précieux parce que effectivement, comme l'a rappelé ma voisine, il va draguer des catégories qui jusque-là résistaient un peu à Marine Le Pen. Alors je ne sais pas si ça se transforme pour le moment en vote sonnant et trébuchant, mais vous l'avez vu dans des écoles de commerce, vous avez vu des papiers dans la presse fleurir où des patrons de grandes entreprises, pour le moment sous le sceau de l'anonymat, disent qu'effectivement quand même Jordan Bardella, c'est un peu plus moderne, c'est un peu moins répulsif que la marque Le Pen.
Et les jeunes dans les sondages, hein, qui le disent
très clairement. Et les jeunes, on a vu les concours de selfies au salon de l'agriculture, à la foire de Montreux, dans tous les déplacements de Jordan Bardella. Néanmoins, je ne crois pas du tout, si vous voulez, je crois que c'est un truc très parisien et un peu journalistique de, sous couvert du surgissement de Jordan Bardella dans le débat public et dans la scène médiatique, de penser qu'il serait tout de suite aussi présidentiable que Marine Le Pen. Il ne faut pas oublier que Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui est ancré dans la mémoire collective, avec d'ailleurs ses défauts, mais aussi ses qualités des Français. Ça fait énormément de temps qu'elle est sur la scène publique. Elle va vers sa quatrième candidature à l'élection présidentielle. Et Marine Le Pen, il faut aussi la regarder. Certes, il y a les selfies de Bardella et il y a Bardella chez les chefs d'entreprise, mais regardez Marine Le Pen, par exemple, quand il y a des inondations dans le nord de la France. Regardez Marine Le Pen quand elle se rend dans la Creuse à faire un marché. Regardez Marine Le Pen quand elle va voir des vieilles dames. Il y a quand même, dans des maisons de retraite, il y a quand même un professionnalisme et une espèce d'empathie un peu naturelle chez Marine Le Pen, un personnage politique qui est quand même un tout petit peu plus abouti à ce stade que celui de Jordan Bardella.
Je vais faire mon journaliste parisien, selon les critères de Tuc du Haldeny. Il n'y a pas de danger Bardella pour Madame Le Pen, vous en êtes sûr vous aussi?
À ce jour, je pense qu'il n'y a effectivement aucun risque. En termes de complémentarité, on a beaucoup souligné cette complémentarité, elle est vraie. On parle beaucoup des jeunes, parce que l'effet TikTok, etc. Mais je pense qu'en termes de poids électoral, la vraie complémentarité de Jordan Bardella et le vrai apport de Jordan Bardella par rapport à Marine Le Pen, ça n'est pas les jeunes, c'est à l'inverse les personnes âgées. Quand on prend la structure électorale aussi du Rassemblement National, très tôt, déjà du temps de Jean-Marie Le Pen, les jeunes votaient pour le FN puis pour le RN. La catégorie qui restait la plus étrangère, la plus hermétique,
les retraités,
la plus allergique au RN, au FN puis au RN, c'était précisément les plus âgés, les plus de 65 ans. Or là, on voit, comme d'ailleurs dans la majorité, Gabriel Attal, il séduit les plus âgés, pas les plus jeunes, les plus âgés. Jordan Bardella, c'est la même chose. Il est hausse à sa moyenne nationale auprès des plus de 65 ans, ce qui n'était jamais arrivé pour le RN. Ensuite, dans la complémentarité, je pense que les Français qui sont un peuple très politique, très électoral, plus que les observateurs, peut-être, ils savent distinguer les élections. Oui, à l'évidence, il y a un effet Bardella dans cette campagne. On l'a vu encore lors du premier débat à 7 hier. Il dominait les autres, genre que physiquement et même dans la manière peut-être d'attirer toutes les critiques des autres listes. Mais je pense que le succès qu'il représente, son style, sa jeunesse, sa fougue, etc., ne sont pas perçus par les Français encore comme étant forcément des notes présidentielles. Ah. Et en termes de présidentialité, je pense qu'ils font la distinction entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. J'en veux pour preuve, puisqu'on parle beaucoup de sondages en ce moment, un autre sondage tout récent fait par l'IFOP pour le Figaro Magazine, qui testait précisément les deux hypothèses.
Oui.
Premier tour, second tour. Dans le cas du premier tour, Marine Le Pen faisait quand même 3-4 points de plus que Jordan Bardella. Elle monte carrément à 34-35-36. Hein. Lui, pas encore en intention de vote présidentiel. Et en second tour, que ce soit face à Édouard Philippe ou face à Gabriel Attal, Marine Le Pen gagne, dans les deux cas, là où Jordan Bardella, pour l'instant, fait jeu égal, ce qui est déjà une
énorme. Bon.
Mais en tout cas, vous voyez, il y a quand même une différence, et je pense que la présidentialité aujourd'hui reste davantage reconnue à Marine Le Pen qu'à Jordan Bardella.
Bonsoir Sébastien Chenu, merci de nous rejoindre sur BFM TV. Vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale, député RN du Nord, je le rappelle. Jordan Bardella n'est-il pas en train de s'imposer pour la présidentielle? Alors non pas en tant que président, mais en fait, on a l'impression maintenant qu'on a quasiment un ticket et que c'est comme ça que nous la présente Madame Le Pen.
Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ce que présente Marine Le Pen. Et c'est ce que veulent aussi nos adhérents, nos militants, probablement nos électeurs. Marine Le Pen à l'Élysée, Jordan Bardella à Matignon. C'est assez inédit dans l'histoire politique française d'avoir un ticket, d'avoir une annonce d'un potentiel Premier ministre si Marine Le Pen était choisie par les Français. Mais Marine Le Pen non seulement le souhaite, l'assume, mais le dit en toute transparence. Chez nous, il n'y a pas d'ailleurs de guerre d'égo. Il y a, je crois, une complémentarité des rôles. Il y a autour de Marine Le Pen une équipe qui est en train de se structurer. Et Marine Le Pen souhaite présenter aux Français, finalement, assez rapidement, les hommes et les femmes qui l'accompagneront dans le redressement du pays si les Français le souhaitent. Et à ce titre, elle indiquait qu'elle souhaitait confier les clés de Matignon à Jordan Bardella.
Donc, vous venez de nous présenter les choses très clairement. Chacun est à sa place. Madame Le Pen à l'Élysée et lui en tant que Premier ministre, en tout cas candidatant l'un et l'autre à ses fonctions.
Oui, et vous savez, c'est une différence, j'allais dire, fondamentale. Chez nous, il n'y aura pas d'hésitation, il n'y aura pas de tromperie sur la marchandise, il n'y aura pas personne sortie d'un chapeau tel un lapin ou de semaines pendant lesquelles, d'atternoiements pendant lesquels la présidente de la République chercherait son Premier ministre. On dit aux Français, voilà, l'offre politique est la nôtre, vous la connaissez en ce qui concerne le programme de redressement du pays en matière migratoire, en matière de sécurité, en matière économique, en matière sociale, mais vous la connaîtrez aussi et vous la connaîtrez à travers les hommes et les femmes qui incarneront ce redressement. Quand Marine Le Pen parle de Jordan Bardella à Matignon, c'est le début, je crois, de l'incarnation d'une équipe qui, autour d'elle, s'attellera à ce redressement de la France. On a longtemps fait le procès à Marine Le Pen d'être seule, de ne pas savoir avec qui elle gouvernerait. Et bien justement, elle est en train, et quand vous regardez la liste des européennes, elle est en train de faire monter des hommes et des femmes qui seront demain aux avant-postes. Alors, du redressement du pays.
Justement, les européennes, parlons-en si vous le voulez bien. D'une certaine façon, bon, les sondages s'enchaînent, ils sont toujours, en ce moment extrêmement flatteurs concernant la liste RN. Est-ce que vous ne craignez pas qu'une partie de vos électeurs s'abstiennent en constatant justement cette avance confortable? Et qu'est-ce que vous leur dites ce soir?
Vous avez raison, rien n'est joué. Le 9 juin est une date sur laquelle il faut mobiliser nos électeurs. Moi, je crois qu'ils le sont. Je crois que nos électeurs ont envie de profiter de cette élection européenne aussi pour faire passer un message de politique nationale qui est celui de dire non à Emmanuel Macron. Mais je crois que jusqu'au bout, c'est l'enjeu principal, mobiliser ses propres troupes, mobiliser ses propres électeurs. Donc c'est pour ça que nous faisons campagne, c'est pour ça que nous prenons cette élection très au sérieux, que nous faisons des meetings là où d'autres ne font rien, là où d'autres ne vont jamais. Quand Jordan Bardella est venu dans la ville de L'Écluse, la petite commune de L'Écluse dans le Nord. Il n'y a jamais eu de leader politique qui soit venu dans ce secteur-là ou dans le Cambrésis ou dans le Denaisis. Oui, nous nous faisons campagne parce que nous prenons au sérieux les électeurs et au sérieux cette campagne électorale. L'abstention est évidemment ce qu'il faut redouter et comme les autres, nous cherchons à la combattre.
Alors une Marine Le Pen qui continue en tout cas à travailler à ce qu'on a appelé la dédiabolisation du parti de Jean-Marie Le Pen. Je vous propose d'écouter ce qu'elle disait ce matin à propos des accusations de racisme dans sa formation.
Mais je ne suis absolument pas raciste et j'ai eu l'honneur de diriger un mouvement politique qui jamais dans son histoire n'a eu dans son projet la moindre proposition raciste.
Il est donc toujours nécessaire de justifier l'accusation de racisme, Sébastien Chenu?
Non, mais je crois que Marine Le Pen répondait à une question. Elle y répond d'ailleurs depuis la nuit des temps face à ceux qui ne veulent pas forcément entendre sa réponse. Mais quel rapport entre une accusation de racisme et la défense de la nationalité française? Nous considérons que les citoyens nationaux qui sont français, qui le sont par la naissance ou par l'acquisition, mais on n'acquiert pas la nationalité française n'importe comment, ont plus de droits dans leur pays que les autres. Ce n'est pas du racisme. La nationalité fait qu'on peut être un Français de n'importe quelle couleur, valeurs. On peut être un Français de n'importe quelle religion. On peut être un Français, voilà, de n'importe quelle obédience. À partir du moment où vous avez la nationalité française, vous devez avoir dans votre pays, mais comme c'est le cas dans beaucoup de pays du monde, une priorité nationale sur un certain nombre de droits ou d'accès à ces droits. C'est ce que nous défendons. Rien à voir, évidemment, avec le racisme que nous combattons d'ailleurs comme toute mesure d'exclusion.
Merci Sébastien Chenu d'avoir pris la parole en direct dans cette émission. Anna Cabana, il reste moins d'un mois de campagne. Hein. Les autres partis, et notamment le camp macroniste, peuvent-ils espérer ramener les débats sur des questions internationales ou en tout cas parler d'autre chose que de ce qu'est en ce moment la vie politique française qu'on vient de faire finalement avec Sébastien Chenu?
Mais en fait, c'est toute la difficulté de la stratégie qui a été choisie, qui a même été verrouillée par Emmanuel Macron. Mmh. C'est-à-dire verrouiller la question sur la campagne, sur les questions supranationales, sur les questions européenne, sur les questions internationales, pour essayer justement de pousser dans ces retranchements les oppositions, à commencer par Marine Le Pen et Jordan Bardella. Sauf que cette stratégie-là, elle n'a pas fonctionné. Elle n'a pas fonctionné et que la prise de conscience désormais est partagée au sommet de l'État. C'est-à-dire qu'il y a des voix autour d'Emmanuel Macron qui considèrent qu'il y a eu une erreur stratégique et que désormais, on a laissé, en fait, ce faisant, ça a permis de laisser le monopole, au fond, des questions quotidiennes, prosaïques, nationales, au Rassemblement national et de l'empathie. On l'a vu dans le débat entre Valérie Ayé et Jordan Bardella sur BFM TV jeudi soir. C'est-à-dire que c'était lui qui accaparait les questions empathiques et qui toujours disait invoquer une catégorie de population ou une autre catégorie de population quand elle était plutôt dans les invocations supranationales. Et la question maintenant, c'est que c'est trop tard pour changer de pied et basculer et, si vous voulez, ouvrir la campagne côté macroniste sur l'entièreté des questions. Donc là, vous avez, je vous dis, des petites voix dans l'entourage qui disent qu'il y a eu, qui en tout cas, qui questionnent la stratégie choisie par Emmanuel Macron pour cette campagne.
Est-ce que c'est vraiment trop tard, justement, pour les macronistes de changer un peu de thème de campagne et de faire du franco-français?
C'est un peu tard et puis peut-être aussi un petit peu à l'instar de ce qui s'est passé en 2019 avec Nathalie Loiseau, qui n'avait pas très bien imprimé non plus médiatiquement dans cette campagne. C'est vrai que...
C'est devenu une spécialité macroniste alors.
Voilà, c'est...
Non, mais
c'est
tout le monde... Non, non, pardonnez-moi. Tout le monde reconnaît les qualités de Mme Valérie Ayé mais on ne l'entend pas.
On en parlait tout à l'heure, à l'époque de TikTok, d'Instagram, est-ce qu'on peut encore se permettre d'avoir des candidats qui peuvent être peut-être techniquement pas mauvais, mais en tout cas qui n'impriment pas dans les médias? C'est très compliqué. L'époque a changé, et Emmanuel Macron le sait, il est quand même jeune, il a choisi un Premier ministre jeune, à son corps défendant peut-être, mais n'empêche qu'il l'a choisi. Mais donc tout ça, il le sait très bien. Après, je trouve quand même que Marine Le Pen a tout de même parler, et Jordan Bardella, de l'Europe des nations, de la question de la souveraineté. Moi, là où je les trouve plus légers là-dessus, la volonté ou pas d'élargir à l'Ukraine, à la Géorgie, etc. Là où je les trouve un peu légers, c'est de quelle souveraineté est-ce qu'il parle, en définitive? Moi, c'est là où il y a quelque chose, il y a un petit grain de sable, je trouve, politiquement, idéologiquement, qui me gêne. Est-ce qu'on est dans la tradition de Philippe Séguin? Et à ce compte-là, on parle pleinement d'Europe? Est-ce qu'on est dans une tradition de potentiel Frexit? Ici ou là, Sarah Knafou, chez Zemmour d'ailleurs, disait c'est peut-être un Frexit déguisé. Oui. Est-ce qu'on est chez Asselineau? En d'autres termes, c'est ce que je voulais dire. Voilà, je trouve que quand on parle effectivement d'Europe, je trouve qu'il y a un discours, mais il est fragile. Pour moi, il n'est pas assez argumenté. On a construit et élargi une Europe, notamment pour se prémunir des dangers russes. Parce que si on l'a élargi à ce point-là et qu'on a quelque part perdu un peu cette unité européenne que l'on connaissait avant les grands élargissements, eh bien c'est vrai, c'était plutôt pour des raisons géopolitiques que pour des raisons européennes au sens strict. Et là, je trouve qu'on n'entend pas exactement ce qu'il faudrait entendre de leur part. Ils sont flous, si je puis dire, là-dessus.
Bonsoir David Amiel, vous êtes député macroniste de Paris et vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée. Merci de nous rejoindre. Le pouvoir d'achat et l'immigration arrivent en tête des préoccupations de nos compatriotes pour ce vote du 9 juin. Est-ce que vous ne vous êtes pas trompé de campagne, même si on comprend très bien que vous essayez de faire une campagne européenne pour des élections européennes et avec Mme Valérie Ayé?
Le pouvoir d'achat et l'immigration, c'est d'abord la première priorité du gouvernement et des mesures nationales que l'on met en place. Mais moi, je suis en désaccord avec ce qui vient d'être dit par certains sur votre plateau. Je pense que ne pas parler d'un projet européen au moment des élections européennes, ce serait se moquer des Français. et les implications nationales, elles sont très importantes. Cette élection, elle est plus importante que jamais. Pourquoi ? Parce que avec Macron, la France change l'Europe, et avec Marine Le Pen, la Russie changerait la France. Et ça se traduirait de manière très concrète dans la vie des uns et des autres. On a vu avec Emmanuel Macron à quel point la France pouvait changer l'Europe. C'est grâce à sa mobilisation qu'on a obtenu un plan de relance historique au moment du Covid qui a aidé nos commerçants, qui a aidé à soutenir le pouvoir d'achat. On a vu la réponse ferme face à la Russie. On a vu les réponses en matière de politique industrielle qui permettent de recréer des usines dans le nord de la France. Tout ça, c'est très concret. Et avec Marine Le Pen, oui, la Russie changerait la France. Et là aussi, on aurait un abandon de l'Ukraine qui serait extrêmement clair, dont on voit à quel point tous les votes du Rassemblement national la poussent dans cette direction. On aurait une France qui s'allierait avec la Hongrie de Viktor Orban, qui est en pleine dérive démocratique, qui muselle l'opposition, la presse. Et tout ça aurait évidemment des répercussions très concrètes dans la vie des Français. Une Russie qui ferait main basse sur l'Ukraine, ce serait une Russie qui maîtriserait les prix alimentaires, les prix des matières premières agricoles, avec des impacts éminents pour nos agriculteurs. Donc oui, tout ce qu'on doit faire dans cette campagne, c'est de montrer les implications des projets des uns et des autres. Mais c'est bien évidemment ce que Marine Le Pen et le Rassemblement national ne souhaitent pas.
Et pour l'instant, ça vous donne des sondages où ils sont à 32 et où vous êtes à 16.
On rentre maintenant dans une campagne de fond. Moi, je suis ravi que Jordan Bardella ait enfin accepté un débat. Pendant longtemps, il refusait même de répondre aux questions des journalistes. On le voyait fuir les conférences de presse. Maintenant, on a plusieurs semaines pour pouvoir précisément confronter projet contre projet, ou plus exactement, projet contre absence de projet, proposition contre dissimulation, parce que c'est bien ça la campagne que l'on doit mener contre le Rassemblement national.
Merci David Amiel d'avoir pris la parole dans cette émission Tuduel. Denis, comment expliquez-vous un score RN qui s'annonce aussi haut alors que la liste Reconquête d'Éric Zemmour ne décolle absolument pas ? C'est du vote utile à droite de la droite.
Justement, il y a deux grandes prises de judo dans la stratégie du Rassemblement national dans ces élections européennes. Il y a d'une part, effectivement, en faire un scrutin national. L'actualité les sert quand même. Ces dernières semaines, sur ce plateau, c'était Samara à Montpellier qui était lynchée devant son lycée parce que elle se maquillait et contrevenait aux règles néo-islamistes imposées par ses camarades. C'était Viry Châtillon, c'était Matisse assassiné par un migrant afghan. Et si vous voulez, l'actualité, on l'a vu d'ailleurs au début du débat animé par Benjamin Duhamel entre Valérie Ayé et Jordan Bardella, évidemment que c'était du pain béni, entre guillemets, pour Jordan Bardella en tactique. Mais la deuxième prise de judo, et c'est presque là où c'est le plus surprenant, c'est que normalement, les élections européennes, c'est un scrutin à un tour où justement, vous pouvez vous faire plaisir, entre guillemets, en votant pour une petite liste, en faisant un choix.
Là, ça prend pas. Hein,
exactement. Et depuis le début, Jordan Bardella a dit il faut que ça soit un référendum contre ou contre Macron. Et c'est là où il réussit. Et après, pour rebondir sur votre premier thème de discussion, écoutez, je crois que Éric Zemmour et Marion Maréchal feraient mieux de regarder comment Marine Le Pen et Jordan Bardella arrivent à avancer ensemble. Là, vous avez un parti à 32% dans les sondages avec des enjeux assez énormes d'accession au pouvoir et un numéro 1, une numéro 1 et un numéro 2 qui arrivent à ne jamais faire parler d'eux sur le plan de la dissension. Et vous avez un parti à 5% d'intention de vote dans les sondages, naissant, qui lui fait parler de lui parce qu'on voit bien que Éric Zemmour, ou en tout cas Sarah Knafo, sa compagne, est un peu jalouse de Marion Maréchal et que résultat, ça faceille un peu dans les voiles.
Alors, au-delà de Marine Le Pen, Emmanuel Macron est donc lui aussi entré en campagne dans ces européennes, vous l'avez compris. Demain, nous serons le 7 mai 2024 et il célébrera son 7e anniversaire à la tête de l'État. BFM TV s'est intéressé à l'exercice du pouvoir de ce président, arrivé par surprise et qui a été confronté à une succession de crises absolument sans précédent. Nous vous proposons donc tous les soirs cette semaine dans Calvi 3D un épisode de cette série inédite. Bonsoir Caroline Mière.
Bonsoir.
Vous avez co-réalisé cette série avec Sandra Boulanger. Qu'allez-vous nous raconter ce soir ?
On s'est intéressé, pour ce premier épisode, à ce qui nous a semblé définir le plus son exercice du pouvoir, et c'est le mot « solitude », la prise de décision seule. Souvenez-vous, quand il a été élu en 2017, c'était sur cette idée qu'il allait consulter les Français, les faire participer, le mouvement En Marche, tous ces marcheurs, et en fait, en un claquement de doigts, le 7 mai 2017, ça a disparu, cette image, quand il marche seul au milieu du Louvre, dans les pas de Gaulle, de Mitterrand, il a fait disparaître cette idée de participation, c'est devenu le président jupitérien. On a beaucoup parlé cette image du dieu, du roi des dieux dans la mythologie romaine. Et en fait, très rapidement, il va encore changer de costume et ça va devenir Vulcain, le maître des forges, celui qui fait. C'est l'hyper-président, on a même dit l'uber-président. Bref,
tous ces revirements, cette prise de décision seule, ça a été vécu comme une trahison pour beaucoup. Et ça va conditionner, dès le début, sa relation avec les Français. Ça, on vous le racontera dans un autre épisode de cette semaine.
Ce soir, c'est La Solitude du Prince. Et c'est donc le premier épisode de cette série Ligne Rouge. On en débat juste ensuite avec nos invités.
T'as commencé ce jour-là.
Emmanuel Macron qui arrive en tête avec
5%. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien.
Je vous protégerai face aux menaces.
On voit bien dès la cérémonie du Louvre que c'est un président qui, d'une part, a décidé d'incarner au maximum la fonction, et lui veut incarner et commander.
En une soirée, il efface le côté président jeune, participatif, la grande marche, associer les Français, entraîner les Français. Et là, tout à coup, hop, on a le président jupitérien qui s'installe et qui va gouverner de manière verticale.
Je vous protégerai face aux menaces. Je combattrai pour vous contre le mensonge, l'immobilisme, l'inefficacité pour améliorer la vie de chacun.
C'est un monarque. Il n'y a aucun doute, c'est un monarque. Il considère que c'est lui qui est élu, c'est lui qui a la légitimité, c'est lui qui a la compétence, et donc c'est lui qui décide. Et il faut que ça se voit.
Il y a un grand paradoxe dans la façon dont Emmanuel Macron gouverne la France. Il se voulait Jupiter, et au final, il se mêle de tout. Ce président en surplomb, en réalité, se comporte presque comme un Premier ministre.
En fait, Emmanuel Macron, il ne veut pas de Premier ministre. C'est lui le Premier ministre. Emmanuel Macron, c'est un président presque à l'américaine, qui pourrait incarner tous les sujets.
La tenue unique sera expérimentée dès cette année dans une centaine d'établissements.
Il y aura un prix minimum, un prix plancher.
Depuis hier, il y a déjà plus de 82 interpellations.
Finalement, il a toujours l'impression que le boulot est mieux fait quand il le fait lui-même que quand ce sont les autres qui s'en emparent.
C'est lui qui fait les annonces, c'est lui qui coupe l'herbe sous le pied de ses ministres, et y compris de ses premiers ministres.
J'invite les membres du Congrès à accueillir le président de la République.
Puisque dès le premier quinquennat, Édouard Philippe, censé présenter la feuille de route de son gouvernement, ce qu'on appelle la déclaration de politique générale, exercice rituel pour tous les chefs de gouvernement, eh bien, découvre qu'à la veille de ce rendez-vous, Emmanuel Macron a décidé de convoquer l'ensemble des parlementaires, les sénateurs et les députés pour leur décliner cette feuille de route.
La charte de notre action a été fixée durant la campagne. Les engagements seront tenus. Les réformes et ces transformations profondes auxquelles je me suis engagé seront conduites. Le Premier ministre, Édouard Philippe, que j'ai nommé afin qu'il soit le dépositaire à la tête du gouvernement de ses engagements, en présentera la mise en œuvre dans son discours de politique générale.
Au fond, le discours de politique générale du Premier ministre n'est plus que détail de ce que le président de la République a dit quelques jours plus tôt. On l'a vu et avec Philippe et avec Attal. Entre deux, il y a eu les expériences Jean Castex et Elisabeth Borne, des profils un peu plus ternes qui étaient totalement dans la main du président de la République.
C'est une relativisation du rôle du Premier ministre, bon, qui est constante depuis 2017. Aucun des présidents n'a poussé cela dans ses proportions, sauf Nicolas Sarkozy.
Il y a un style de gouvernance chez Emmanuel Macron qui est décrit souvent par certains de ses anciens ministres comme épuisante. Ils ne le voient pas ou peu. Ils ont des relations souvent par SMS, la nuit, très tard.
Alors, il est obligé de tout savoir, donc il appelle toutes sortes de gens, il a des contacts, etc.
une des hantises d'Emmanuel Macron, c'est d'être déconnecté, d'être seul dans son palais. François Hollande lui a raconté cette solitude et il ne veut pas retomber dedans. Et donc il s'en sort avec son téléphone portable, avec son application Telegram qu'il utilise à longueur de journée, à longueur de soirée, et il écrit à tout le monde. Alors quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'il peut s'adresser évidemment à ses alliés politiques, sénateurs, députés de terrain, mais aussi à une standardiste de l'Élysée. Et il leur écrit des SMS qui prennent à peu près toujours la même forme, puisqu'il demande aux gens comment tu vois les choses, comment tu sens les choses, qu'est-ce que t'en penses. C'est très ouvert. Et après, Emmanuel Macron ne dit pas ce qu'il fait de ces messages.
Comme il écoute beaucoup, on croit qu'il entend. Mais il écoute beaucoup pour être sûr de vérifier qu'il ne s'est pas trompé.
À la fin des fins, c'est le roi qui décide.
D'où les déceptions qui peuvent suivre.
C'est lui qui concentre les pouvoirs, donc évidemment, c'est lui qui est la cible. C'est le revers de la médaille.
Quel excellent reportage. Alors, Caroline Mière, on a l'impression d'avoir élu un chef de bande hein, en 2017. Ouais. Et aujourd'hui, il est incroyablement seul au pouvoir. C'est ce qu'on vient de ressentir profondément. En tout cas, de sa volonté.
De sa volonté, exactement. Alors, mais souvenez-vous l'investiture, je vais y arriver, oui. D'Emmanuel Macron sur ce tapis rouge de l'Élysée. On avait sa garde rapprochée qui défilait. Il reste qui de ces visages? Oui. Ismaël Emilien? Il n'est plus là. Sibeth Ndiaye n'est plus là. Griveau n'est plus là. Castaner, il n'est pas sur le tapis, mais plus là non plus. Même Richard Ferrand, qui lui murmurait beaucoup à l'oreille hein, dans le premier mandat, on ne le voit plus, il n'est plus là. Il est vraiment très seul. C'est ce que m'ont dit tous les interlocuteurs pendant la réalisation de ces reportages. Et de ceux qu'on avait appelés les deux hémisphères, Ismaël Emilien et Alexis Kohler, il ne reste guère qu'Alexis Kohler, qui lui, pour le coup, va battre des records de longévité au secrétariat général de l'Élysée. Mais c'est vraiment un homme seul, on ne lui connaît pas d'amis. Et c'est ce qui va faire, qui va concentrer les responsabilités et donc les colères. Et ça, on va vous le raconter aussi plus tard.
C'est terrible ce que vous venez de décrire. Hein. Anna Cabana, c'est un président solitaire ou c'est un président isolé aujourd'hui? C'est pas la même chose.
Non, mais c'est les deux. Parce qu'en fait, c'est précisément... C'est-à-dire que c'est un président solitaire dans l'idée même qu'il s'est faite de son élection. Il faut voir qu'Emmanuel Macron, il a une vision presque messianique de son élection. Il a été élu, alors par réfraction, c'est ce qu'il dit, mais il pense qu'il y a eu un alignement de planètes. Il y a une vision mystique, au fond, de son élection. Et donc, il est non, mais vous pouvez rire, mais
non, mais je ris parce que je vois très bien comment ça se passe dans sa tête.
Malheureusement, c'est vraiment très sérieux pour lui.
Oui, mais bien sûr.
Il y croit absolument. C'est-à-dire qu'il pense qu'une étoile est au-dessus de sa tête et qu'elle l'a aidé à être élu et qu'il est l'élu des Français. Et donc, fort de cette élection majuscule, si vous voulez, dans sa conception presque sacrale, c'est vraiment son imagerie à Emmanuel Macron, eh bien, ça, si vous voulez, ça l'oblige à une solitude. Il n'y a que lui qui peut, il n'y a que lui qui est, il n'y a que lui qui sait. Et donc, il est isolé par ce messianisme politique qui est le sien. Et donc, bah, forcément, si vous voulez, il en découle aujourd'hui une alliance avec Alexis Kohler qui est, au fond, son double
dans l'ombre.
Gestionnaire dans l'ombre, dans la technocratie. C'est-à-dire qu'il y en a un qui prend la lumière des étoiles et l'autre qui est là au charbon dans son bureau, les mains dans la technocratie.
Son double technocratique.
C'est ça la mythologie.
Voilà.
Oui, c'est ça, c'est son double technocratique.
Mais on est dans la mythologie de Macron, je vous dis. Je ne dis pas qu'il faut souscrire à cette idée-là.
Hein. Bien sûr. Mais moi, ce que je trouve aussi peut-être dommage, mais c'est la conséquence aussi, c'est finalement, après Macron, qu'est-ce que le macronisme? Et qu'est-ce que le macronisme? Justement, on a beaucoup parlé de Ismaël Emilien et de David Amiel qu'on vient de voir. Ils ont essayé de définir dans un livre sur le progressisme, oui, en disant le macronisme est en progressisme. On a vu que ça ne tient pas très bien.
Non.
C'est assez léger, n'est-ce pas?
Le livre a eu assez peu de succès.
Mais ça, ce n'est pas toujours... C'est pas toujours un critère. Mais en tout cas, voilà, certains ont essayé de théoriser. C'est ça que je suis en train de dire, en fait. Et c'était une époque où, effectivement, le mot progressisme pouvait à peu près coller. Aujourd'hui, ça colle, effectivement, de moins en moins. Donc, il y a aussi, évidemment, l'absence d'ancrage territorial. C'est la conséquence de ce qui vient d'être raconté. Quid des militants? Quid du terrain? Quid des villes gagnées? Plutôt perdues? Et jamais conquise, en fait. Donc, c'est très compliqué. Je trouve effectivement que c'est dommage parce que, quelque part, ça aurait été 10 ans, peut-être politiquement, idéologiquement, finalement, peut-être un peu vide.
Merci à tous.